Philippe Ken, nous allons parler des conquérants d'Aton, donc le tome 2. Alors, on dit aïe, on dit comment ?
Écoutez, oui, on dit plutôt aïe, en fait. Voilà.
Aïe.
Oui. Donc, le pharaon sans couronne, c'est donc le sous-titre des conquérants d'Aton dans le tome 2, qui parle d'un personnage, tout à fait extraordinaire. Un monsieur dont on souvent, qui est très très méconnu, on le confond souvent avec d'autres pharaons éventuellement. Alors, il faut savoir que c'est un personnage qui, au départ, est considéré comme le père de Néfertiti, mais aussi le frère de la reine Ti, la propre mère d'Akhenaton. Alors, ce personnage hors norme va jouer un rôle tout à fait prépondérant, puisque c'est lui qu'on appelait le divin père, c'est-à-dire le principal conseil du roi, qui deviendra ensuite le seigneur de la divinité, ou Atonai. Alors Atonai, bon, ben, ça rappelle aussi certains noms dans la Bible, comme Adonai, qui est le nom détourné de Dieu. Alors bon, il y a des parallèles à faire, et là je renvoie vos auditeurs, si vous le permettez, au livre, pour faire les découvertes assez étonnantes, puisque là, je propose une thèse, certes osée, mais étayée, avec certains égyptologues de renom, tels que Christian Dersnoblecourt ou Joseph Davidovits, mais aussi mon ami et préfacier Roger Sabat.
L'Égypte fascine toujours autant, d'ailleurs, par son histoire. Hein. C'est un roman historique, vous le dites, sous forme de thèse.
Tout à fait.
Mais c'est quand même un deuxième volume. Alors, les conquérants d'Aton, on peut dire quand même quelques mots sur ce premier tome, La part de vérité, et qui là voyait plus l'époque Akhenaton et Néfertiti, effectivement.
Oui, tout à fait. Alors, Akhenaton est aussi, lui aussi, un personnage tout à fait fascinant. Puisque, après avoir été un prince rebelle, il va devenir le pharaon le plus atypique de tous les temps, puisque Akhenaton va bouleverser l'ordre cosmique établi depuis des millénaires dans l'Égypte antique. Et donc, face à cette Égypte millénaire et immobile, confinée dans ses traditions superstitieuses, Akhenaton va imposer une spiritualité inédite, il faut bien le dire, épurée, est très en avance sur son temps. Un dieu unique et transcendant, Aton, dont l'aspect visible est Ra, le soleil. Alors, le soleil brille pour tout le monde. Bon, c'était une vraie gageure, alors que le principal adversaire de sa réforme était le temple du dieu Amon, le roi des dieux, mais aussi le dieu des rois, comme le prétendait son clergé, quand même corrompu par les richesses et les débauches de toutes sortes, et qui régnait sur la conscience des Égyptiens. Mais pour Akhenaton, qu'à cela ne tienne, sur ordre de Pharaon, les temples et les divinités ancestrales vont être délaissés. Donc c'est vraiment une révolution tout à fait extraordinaire, qu'il mènera d'ailleurs avec son épouse Néfertiti. Néfertiti, c'est bien plus que le beau masque que nous connaissons, que nous admirons tous, puisque on peut bien dire que derrière ce beau visage, et Néfertiti devait être une belle femme, puisque son nom signifie « la belle est venue ». Donc derrière ce beau visage, disais-je, devait se cacher un cœur courageux et un esprit bien fait, comme on dit.
Alors, pour revenir au conquérant d'Aton, donc ce volume 2, l'histoire de Haï, donc un roman qui commence par un attentat, une tentative de meurtre, au cœur même du grand temple d'Aton, à l'encontre du pharaon Semenkara.
Oui.
Finalement, on est en plein complot, en pleine corruption de tout genre. Alors, complot pourquoi ? Pour qui ? Pour la conquête du pouvoir ?
Oui, c'était exactement ce que je vous disais précédemment. Donc il y avait cette lutte terrible et acharnée entre les partisans d'Aton et son pharaon contre les partisans d'Amon, qui se sont vus donc mis à la portion congrue lors de l'avènement d'Akhenaton. Et il y a là donc une dispute terrible qui va se dérouler entre ces deux factions et qui aurait pu déboucher sur une guerre civile finalement, donc qui n'aura pas lieu. Parce que Haï va, on va dire, remettre l'ordre des choses, voilà, un petit peu contraint et forcé, et on va le voir devenir un des personnages les plus importants d'Égypte. Aussi un pharaon tout à fait atypique. Haï va quand même servir Aton l'unique, comme on disait, et l'Égypte, sous trois pharaons, Akhenaton, Semenkara et Toutankhamon, avant de monter lui-même sur le trône dans son vieil âge pour les besoins de la cause. Alors, c'est un personnage tout à fait extraordinaire, disais-je, et je crois qu'on peut le définir, sans trop de risques, comme un mélange subtil entre Richelieu et Mazarin. Donc, c'est pas quand même une référence qui est tout à fait extraordinaire. Voilà. Donc, Richelieu et Mazarin, qui, bien plus tard, sous d'autres cieux, joueront une partition politique similaire à ce qu'aura fait Haï.
Alors, il y a les menaces, évidemment, intérieures, les complots internes, on le voit ici, mais il y a aussi des menaces extérieures, les ennemis extérieurs, comme les Hittites ou d'autres.
Voilà, donc il y a l'ennemi héréditaire de l'Égypte, qui est l'Empire Hittite, qui, à chaque crise en Égypte, mobilise ses troupes, mobilise ses forces pour essayer de prendre l'avantage sur l'Égypte. Les Hittites n'y parviendront jamais, parce qu'ils avaient face à eux un empire égyptien à l'apogée de sa puissance, puisque nous sommes au cours de la 18e dynastie. Cette dynastie, c'est la dynastie impériale, celle qui véritablement va porter l'Égypte à son maximum territorial et qui va la porter au succès militaire répété.
Alors, Haï, mais comment le définir? Parce que c'était un fin diplomate, c'était un fin stratège, parce que pour réussir à tirer lui-même son épingle et à sortir aussi les pharaons des divers complots et des divers pièges qui leur sont tendus, comment a-t-il pu tenir?
Écoutez, je crois que c'est véritablement, je vous le disais, un personnage tout à fait hors du commun, en réalité, qui était quelqu'un qui dominait. Il a dominé la vie politique. Il était en réalité le pouvoir caché. Il était le pharaon de l'ombre, d'où d'ailleurs le sous-titre du livre « Haï, le pharaon sans couronne » au départ. Couronne qu'il ceindra plus tard, et encore une fois pour les besoins de la cause. Personnage tout à fait extraordinaire, tout à fait fabuleux, qui va véritablement dominer son temps et qui, lui, sera le véritable régent d'Égypte. On peut dire qu'Haï était le grand intendant d'Égypte.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fin du livre, il y a cette rencontre, on va dire, avec, pour le lecteur, avec Toutankhamon, et ce jeune Toutankhamon, ce gamin presque.
Oui. Oui, c'était un enfant, il devait avoir aux environs de 9 ans. Donc Toutankhamon, lui, sera le pharaon, c'est-à-dire ce sera le personnage qui va régner. Mais il ne va pas gouverner. Ce sera Haï qui va gouverner à sa place, comme il le faisait déjà en grande partie sous les deux autres pharaons précédents. Il va continuer de manière encore plus importante sous Toutankhamon, et il succédera finalement à Toutankhamon.
Alors, vous avez cité tout à l'heure les personnes sur lesquelles vous avez pris appui pour écrire ces deux romans, hein, oui. Christiane Desroches-Noblecourt, bien connue des égyptologues et des égyptiens et respectée, Joseph Davidovitz, Estelle Villeneuve, etc. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? La caution historique, la caution vérité de l'histoire de ces personnages mythiques, finalement, qui raconte l'existence humaine aussi avec les joies, les peines, les gloires, les chutes et tout cela.
Oui, exactement. Donc, en ce qui concerne Christiane Desroches-Noblecourt, j'ai donc trouvé auprès d'elle quand même un très, très grand nombre d'appréciations très précieuses. En ce qui concerne Joseph Davidovitz et mon ami Roger Sabat, là, c'est plutôt au niveau de la thèse que nous exposons. Donc, en réalité, l'origine du peuple hébreu, voilà, qui est sous-jacente dans mes textes. Et là, nous avons une thèse, nous exposons une thèse qui est, comme je vous le disais, osée, mais tout à fait étayée par ces deux personnages. Et finalement, ma propre intuition aussi, dont je livre la teneur à travers ces lignes. D'ailleurs, il y aura un troisième tome, pour tout vous dire. C'est une trilogie, Les Conquérants d'Aton sont une trilogie qui se terminera donc par un exil du peuple d'Akhet-Aton et qui rejoint un petit peu l'exode du peuple hébreu dont je parlerai dans ce troisième tome qui sortira donc en principe début 2021.
Donc berceau, l'Égypte, berceau de la civilisation finalement à la fois occidentale et moyenne-orientale.
Tout à fait, exactement. Très certainement berceau de la civilisation occidentale et puis aussi donc au niveau de cette spiritualité immense développée par les Égyptiens qui, il ne faut pas l'oublier, tout de même était le peuple le plus avancé, la société la plus avancée de son temps.
Merci beaucoup. Et puis donc, on va lire celui-ci, bien sûr. Et puis, on attend le prochain avec beaucoup d'impatience. Merci à vous.
Merci Gérard. À bientôt.